7h16 minutes. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors Hubert, tu l'avais un peu prévu là, c'est-à-dire que l'inscription en bourse a été suivie d'une perte de la valeur de l'action.
Oui, on est rendu à 40,60 $ environ ce matin. C'était à 45 $ à la lancée. Et je t'avais dit la semaine passée, tu sais, la première journée en bourse, c'est chaotique, même les premiers temps. Mais c'est un peu ça. Uber, à partir de maintenant, a de la pression aux 3 mois pour faire des profits éventuellement, pour couper dans les coûts. Un peu comme d'autres, est victime un peu du fait que les premiers investisseurs privés voient une occasion ici de liquider leur placement ou de commencer à liquider une partie pour diminuer leur risque. Alors, plein de gens me disent des choses comme un premier appel public à l'épargne, c'est une occasion d'affaires. Ouais, ça peut être une occasion d'affaires, mais à moyen terme. Mais à court terme, c'est plus difficile. Après ça, on a un autre biais d'investisseur. On se dit souvent, hey, moi, je connais ça, Uber, je l'utilise, c'est bon, là, c'est un bon produit, c'est un bon service. Attention, il y a toujours une nuance entre l'utilisateur du service puis la réalité financière derrière. Tu sais, moi, je peux bien triper sur un jeu puis dire qu'il est super bien fait, mais s'il coûte plus cher à produire que le prix de vente, c'est pas nécessairement une bonne affaire. Donc, on a ce biais-là comme investisseur souvent. On dit, hey, j'aime beaucoup le produit, mais est-ce que la finance va avec? Après ça, tu peux dire, est-ce que c'est un bon moment pour investir dans la compagnie? Comme je te disais tantôt, c'est le moment où certains investisseurs sortent. On me dit aussi que, historiquement, les 12 premiers mois sont chaotiques, justement parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts divergents, qu'il y a de la pression pour faire du rendement, que, dans le fond, le vrai modèle d'affaires sort. Tu sais, prends Goodfood, par exemple, pour acquérir des nouveaux clients, on donne beaucoup de rabais. Donc, il y a beaucoup de coûts d'acquisition de clients, mais quand est-ce que ça va être rentable en pleine exploitation quand les prix sont réguliers pour tout le monde? Et évidemment, le risque important chez Uber, c'est la rémunération des chauffeurs. Tu vois, au Québec, là, on a un OBNL qui a lancé une application qui s'appelle Eva et qui paye plus que Uber, le chauffeur. Donc là, il y a ça aussi, les concurrents, la rémunération. Qu'est-ce qui va arriver avec les chauffeurs et à quel moment ils vont dire « Hey, c'est assez, on veut un peu plus, puis pour ça, on le fera plus. Là. À ce prix-là, on va laisser faire, puis on va retourner faire autre chose. »
Puis c'est pas dans un avenir approché qu'on va remplacer tous les chauffeurs par des autos sans conducteur. Là.
Donc, entre-temps, ce sont des investisseurs institutionnels qui peuvent se permettre souvent d'investir massivement dans ce genre d'entreprise parce qu'ils peuvent se dire « Ce sera peut-être un Amazon de ce monde, mais peut-être dans une décennie ou peut-être dans 7, 8, 10 ans. »
Alors, tu dis aux investisseurs, dans le fond, si vous souhaitez faire un profit rapide, c'est pas le genre d'action.
Tu sais, il y en a qui ont fait des profits rapides avec Facebook, par exemple, mais pour une licorne comme ça qui fait beaucoup d'argent, il y en a beaucoup qui vont te faire vivoter avec ton argent et peut-être que des placements avec dividendes sont peut-être plus intéressants parfois.
On est souvent sollicité, puis parfois, et puis on le voit dans la presse ce matin, là, on mélange les organismes, la SPA Canada et la SPCA. C'est pas la même chose. Puis on se demande jusqu'à quel point où va notre argent dans tout ça.
Ouais, demeurer vigilant. La première des choses, et là, on parle de SPA ce matin, mais il y en a d'autres, là. Des gens qui viennent nous quitter. Tu sais, vous voyez souvent au coin des rues, là. Il y a quelqu'un avec un T-shirt, pis un beau sourire. Il y a un pad. Puis il te regarde. Puis il t'enligne, il te voit dans tes yeux, puis là, il cherche un regard, puis là, tu le vois, puis là, il dit bonjour, monsieur, tu sais, qu'est-ce que vous faites, vous, pour sauver le monde? Puis là, ça part, puis là, tu dis, mon Dieu, je sais pas, le 15 minutes, mais je vais le prendre. Là, tu jases avec, puis à la fin, il veut ton don, ta carte de crédit. Et ça, c'est des organismes, c'est des entreprises qui représentent des organismes qui rémunèrent des gens pour quêter. Ça, ça va. Mais maintenant, comme contribuable, comment je fais pour savoir si c'est un organisme qui est de bienfaisance ou non? Ou de charité. Bon, première des choses, sachez qu'il y a un site fédéral, vous tapez sur Internet, là, c'est organisme de charité, et ça va vous donner la liste des organismes qui sont reconnus comme charité. Ça veut dire qu'ils peuvent vous émettre des reçus d'impôts. Et par conséquent, il y a une certaine vérification. Par contre, t'es pas obligé d'être un organisme de charité. Ça se peut que tu dises, hey, c'est bien trop. Nous autres, on ne reçoit pas beaucoup de dons en argent. Les gens veulent pas nécessairement des reçus d'impôts pour les petits dons qu'ils nous donnent. On va juste être un OBNL pour commencer, tu sais. Un organisme à but non lucratif, sans émettre de reçus d'impôts, ça va être moins lourd. Mais toi, comme personne qui questionne l'OBNL, tu peux demander, qui est sur le conseil d'administration? Y a-tu des gens externes? C'est quoi vos réalisations? Montrez-moi votre structure. Quels sont vos actifs? Montrez-moi vos états financiers. Ça se fait, ça, comme donateur important quand il n'y a pas des dons de charité aussi. Tu peux aussi poser des questions du type, comment il répartit l'argent? Parce que je te donne un exemple. Il y a des jeunes qui sont venus cogner chez nous dans les dernières années et ils se présentaient. Bonjour, voulez-vous encourager la jeunesse? Là, je prenais ma main et je tu tapes dans le dos. Lâche pas le jeune, tu sais. Non, mais avec de l'argent, tu sais. Ah, là, on vend du chocolat. Parfait. Ouais, ouais. Puis là, la personne a dit, moi, je vends du chocolat pour mes activités parascolaires. Puis elle dit, moi, c'est pour mon patinage artistique. J'ai dit, une minute, là. Vous êtes dans la même levée de fond. Tu sais, comment ça se fait que vous faites ça ensemble? Ça marche pas, ces deux. Ah, mais c'est parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un monsieur qui nous donne une pièce par palette de chocolat vendu. Puis nous, on paye nos affaires, notre sel avec ça. Attends une minute, là. Donc, t'es en train de me dire qu'il y a un gars, derrière tout ça, qui a un modèle d'affaires de palette de chocolat, qui vend une palette 5 piastres. Toi, tu gardes une pièce, lui, il paye sa palette une pièce, puis il fait 3 piastres de profit, puis dans le fond, derrière un organisme à but non lucratif, derrière une levée de fonds pour une école, finalement, c'est même pas ça.
Puis du chocolat que t'achèterais même pas, c'était pas de la cause, là.
Ben, c'est ça. Donc, finalement, on me vend une cause, quand la réalité, c'est que il y a des représentants étudiants qui me vendent du chocolat pour avoir une pièce de commission. C'est des vendeurs itinérants de chocolat sous l'œuvre de la bienfaisance. Il y avait même un gars qui était connu chez nous, puis lui, il était... il dit, moi, je travaille pour la sécurité chez TVA. Je fais de la guignolée, tu sais, je recueille pour la guignolée. T'sais. Des médias, c'est la semaine passée, tu sais, j'étais un peu au courant. Il dit, ouais, mais je peux te faire un reçu d'impôt. Là, il sort son pad Blue Note acheté chez Bureau en gros. Puis il marque, reçu, 20 piastres. Tiens, regarde, je peux te le faire. Je dis, hey, tu me prends vraiment pour un cave, toi, là. Mais le gars, tu vois, fait qu'il faut faire attention comme donateur. Il y a, oui, les bonnes œuvres, mais soyez sceptiques, il y a des gens qui veulent profiter de votre charité, mais surtout de votre naïveté pour recueillir votre argent à des fins personnelles.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. 7h23.